Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire qui est diffusée sur les ondes de Chiz 94.3. Le 15 juin dernier marquait le 75e anniversaire de décès du frère Marie-Victorin, figure intellectuelle, religieuse, scientifique plus qu'importante au Québec. Et à l'occasion, l'émission de ce soir va porter justement sur cet homme et plus particulièrement sur sa correspondance. La correspondance secrète qu'il a maintenue avec Marcel Gauvreau entre les années 30 et 40, qui a été révélée en 90, mais qui, en fait, a été publiée tout récemment par notre invité de ce soir, Yves Gingras, qui est historien et sociologue. Il a publié ses lettres biologiques, justement, comme Marie-Victorin les appelle, aux éditions Boréal en 2018. Donc, bonsoir, M. Gingras, bienvenue à l'émission.
Bonsoir.
Donc, M. Gingras est professeur à l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en sociologie et en histoire des sciences, pardon. En histoire et en sociologie des sciences. En plus de son livre sur Marie-Victorin, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage paru en 2016 aux éditions Boréal, L'impossible dialogue science et religion, qui fait un écho quand même, on s'imagine, à l'homme qui est Marie-Victorin. Vous êtes aussi spécialiste de Marie-Victorin, justement. Et va publier très bientôt la seconde partie des lettres de la correspondance, celle de Marcel Gauvreau, pardon, aux éditions Boréal. Donc, à l'animation, vous êtes avec Myriam Levesque et Amy Bois, qui vient tout juste de s'ajouter à l'équipe de 3600 secondes d'histoire. Bonsoir, Amy.
Bonsoir, Myriam.
Et juste avant de commencer l'émission, les rendez-vous d'histoire font un partenariat cette année avec les Fêtes de la Nouvelle-France. Vous aurez la chance de gagner trois médaillons pour participer aux Fêtes. Il va y avoir, à la fin de l'émission, en fait, on va donner on va vous dévoiler les invités de la semaine prochaine et le sujet de l'émission. Et ce sera ce que vous devrez dire sur Facebook, pardon, sur notre page Facebook pour courir la chance de gagner un médaillon. Donc, revenons à notre émission. Sans plus tarder, pour nous introduire un peu justement sur la personne qu'est Marie-Victorin, pourriez-vous un peu nous le présenter en quelques phrases?
Oui, bien sûr. Le frère Marie-Victorin est né Conrad Kerouac, qui est le seul garçon vivant de la famille de Kerouac. Son père était assez riche, c'est un marchand de grains à Québec qui habitait sur le boulevard de l'Allier, si ma mémoire est bonne. Et donc, il est né en le 3 avril 1885. Et il est décédé le 15 juillet 1944, donc c'est le 75e anniversaire de son décès. Et comme il était le seul garçon, son père s'est dit, bon, au fond, il va probablement prendre la suite de sa compagnie de grains à Québec. Et donc, il l'envoie étudier à l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes de Québec, donc l'école commerciale de Québec. Donc, il ne va pas faire le collège classique. Il faut savoir que quand on veut devenir prêtre ou jésuite ou oblat ou dominicain, on fait des études classiques, on apprend le latin, le grec. Quand on veut être comptable, homme d'affaires, on fait l'école commerciale. Donc, on apprend le français, l'anglais, la dactylographie, on attend la comptabilité. Donc, lui, c'est la formation qu'il a eue à Québec. Mais il a vu à Québec, donc, comment les frères étaient, et il s'est dit, bien, moi, au fond, je vais être un frère éducateur, et je vais donc devenir moi-même frère des écoles chrétiennes. Puis son père n'était pas trop d'accord, parce que son père, c'est quand même un grand bourgeois de Québec, il est très riche, il a une belle maison, il a une maison de campagne à l'ancienne Lorette, il y a un piano dans la maison, ses filles sont bien habillées. Donc, il se dit, ça serait mieux si tu devenais un oblat, ou bien même peut-être un dominicain. Mais Marie-Victorin, qui est quelqu'un de déterminé très, très jeune, dit non, moi, je vais être frère des écoles chrétiennes. Donc, en 1901, quand il termine ses études à Québec, il part immédiatement devenir novice chez les frères des écoles chrétiennes, dont le lieu de formation est à Montréal. Donc, il devient frère. Et donc, comme il devient frère, ça veut dire qu'il est dédié à devenir un professeur d'école primaire-secondaire. Donc, de former des jeunes entre, disons, 10 et 15 ans, ou 16 ans. OK? Mais il n'y a aucune formation universitaire, Marie-Victorin. Il n'y a aucune formation scientifique. Mais comme il y a des problèmes de santé, il y a la tuberculose, il crache du sang, et très tôt, à partir de 1904, il va penser mourir. Donc, la mort est dans la vie de Marie-Victorin une obsession. Il est toujours en train de dire, je ne survivrai peut-être pas à l'année prochaine. Il dit ça constamment. De 1904 à 1944, il pense qu'il va mourir l'année prochaine. Donc, ça l'amène à être très actif et à se dévouer corps et âme à son travail. Mais comme il a besoin de nature, le médecin dit, bon, il faut que j'aille en campagne, etc. C'est ce qui va expliquer, d'ailleurs, qu'à partir de 1938, quand les hivers sont trop forts, il va aller à chaque année passer l'hiver à Cuba. Parce qu'il ne peut pas subir ici les températures que nous, on est capable d'endurer. Parce que nos poumons sont bons, mais ses poumons ne sont pas bons. Donc, il découvre la botanique et il s'intéresse beaucoup aux plantes. Et son père lui offre donc, à l'âge de 13 ans, vers 1904, un premier microscope. Et donc, il va se former lui-même. Et il va commencer à publier des articles dans le Naturaliste canadien, qui est la seule revue scientifique francophone qui publie sur les plantes ou tous les problèmes de l'histoire naturelle. Ça peut être la zoologie, sur les moustiques, etc. Donc, c'est tout ce qui touche l'histoire de la nature, les plantes, etc. Et il publie beaucoup d'articles. Et il publie en 1916 son premier livre sur la flore du Témiscouata. Et là, sa vie va être bouleversée en 1920, parce qu'en 1920, c'est la création de l'Université de Montréal, qui avant n'existait depuis des années 1880 que comme succursale de l'Université Laval. Donc, comme on est à l'Université Laval, vous devez savoir que l'Université Laval a été créée en 1852, mais qu'avec le développement démographique de Montréal, à partir du milieu des années 1870, Montréal veut son université. Mais on se dit, au Québec, il n'y a pas de place pour deux universités qui vont se faire compétition. Deux universités francophones, s'entend. Donc, on s'entend que Laval va avoir une succursale à Montréal. Donc, de 1875, en gros, jusqu'à 1920, Montréal n'est qu'une succursale de Laval. Mais en 1920, après la guerre, le développement économique de Montréal est énorme comparé à Québec. On dit, c'est assez, il faut que Montréal ait sa propre université. Donc, la bourgeoisie de Montréal, les hommes d'affaires de Montréal réclament leur université, ce qui amène la création donc, de l'Université de Montréal en 1920. Mais lorsqu'on crée l'université, on cherche des professeurs. Et donc, on importe des professeurs. Par exemple, le professeur de biologie, Louis Janvier d'Albis, est importé de Paris, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de formation. Même à l'Université Laval, on n'a pas formé beaucoup de doctorats entre 1852 et 1920. Donc, pour la chaire de botanique, on se dit, ben, le seul qu'on connaît qui est très connu déjà, même s'il est simple frère des écoles chrétiennes, et qu'il est professeur d'école primaire ou secondaire au Collège de Longueuil, ça va être le frère Marie-Victorin. Les autorités lui permettent, parce que quand on est frère des écoles chrétiennes, on doit accepter l'autorité du supérieur, on doit demander la permission pour tout. Donc, chaque fois que Marie-Victorin va vouloir faire un voyage après 1920, il doit écrire au supérieur, « Monsieur le supérieur, me donnez-vous la permission d'aller à Cuba, d'aller en Floride, d'aller en Colombie-Britannique, parce que Marie-Victorin va voyager énormément. » Et donc, toujours est-il qu'il dit, OK, l'archevêque de Montréal intervient, il dit, « Écoutez, là, l'Université de Montréal, c'est important, laissez Marie-Victorin aller à l'université. » Ça change sa vie. Parce que lui, il avait eu un projet de jeunesse, à mon avis, irréalisable. C'est un petit prof d'école primaire. Il dit, il nous faut une flore du Québec. Il faut faire ça. Mais c'est pas lui tout seul qui peut faire ça. Mais il dit, il nous faut une flore. Et ça va devenir, en 1935, la flore laurentienne. Mmh. Mais elle est possible parce qu'en 1920, il s'entoure d'une équipe, Jacques Rousseau, Marcel Gauvreau, d'ailleurs, qui va être une étudiante du département de botanique. Il s'entoure de toute une équipe qui va lui permettre, après 15 ans de travail, donc de 1920 à 1935, d'enfin publier la fameuse flore laurentienne. Donc, c'est là qu'il devient très important. Et donc, comme on dit, oui, mais il n'y a pas de doctorat. Donc, en 1922, il dépose à l'Université de Montréal une thèse de doctorat de botanique qui s'appelle les Félicinées du Québec, donc qui est une étude d'un certain type de plantes, et il obtient donc, comme tout bon prof d'université, doit avoir son doctorat. Donc, on voit que la carrière de Marie-Victorin, c'est une carrière qui est spéciale. Mais comme c'est un organisateur, il dit, OK, on est en 1920, qu'est-ce qu'on a comme communauté scientifique au Québec? On n'a rien. L'Université de Montréal vient d'être créée, on doit en faire la propagande, on doit stimuler des carrières scientifiques. Donc, il se met à publier toute une série de textes très importants qui sont publiés dans Le Devoir, qui est son journal de propagande, le Devoir accepte tous les textes de Marie-Victorin. Souvent, c'est des textes de 30 pages. Vous ne verriez jamais aujourd'hui un journal qui publie pendant une semaine de suite un feuilleton de 6 articles sur la botanique. Okay? Donc, il publie tout un ensemble de textes, dont un pour la promotion des sciences à l'Université de Montréal qui s'appelle « L'étude vers la haute culture scientifique » en 1922. En 1916, il publie « L'étude des sciences naturelles, son développement chez les Canadiens français ». Où là, il montre que les Canadiens français ont rien fait en science et qu'il est temps que ça cesse et que ça se développe. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui, comme j'ai toujours dit, Marie-Victorin, c'est pas juste un botaniste, c'est un intellectuel de combat. Mmh. Il va faire un texte absolument révolutionnaire en 1925 qui s'appelle « La province de Québec, pays à découvrir et à conquérir à propos de culture scientifique et de libération économique ». Là, on est en 1925. Il n'y a personne à cette époque-là, y compris Lionel Roux, qui a un discours aussi progressiste pour dire que le développement économique et l'autonomie du Québec passent par la science. Parce que l'économie doit être aussi elle-même fondée sur la science. Donc, on comprend pour quelle raison, dans les années 20, Marie-Victorin devient la figure de proue. Tous les jeunes qui veulent aller en science, dont Pierre Dansereau, qu'on connaît parce que c'est le grand écologiste, c'est un étudiant de Marie-Victorin. À l'Université Laval, le Centre d'études nordiques, on passe à Jacques Rousseau. Bien, Jacques Rousseau, c'est un étudiant de Marie-Victorin, qui a pris d'ailleurs la succession et la direction du jardin botanique au décès de Marie-Victorin en 1934. Donc, c'est quelqu'un qui est très important, parce qu'aussi, c'est celui qui a créé en 1923, avec d'autres, l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, l'ACFAS, qui tient son congrès annuel depuis 1933 de façon continue. Et l'ACFAS peut nous paraître pas très importante, mais il faut savoir que le Canada n'a pas d'Association canadienne pour l'avancement des sciences. Or, dans tous les pays du monde, depuis 1831, avec la création de la British Association for the Advancement of Science, 1848, la création de l'American Association for the Advancement of Science, 1872, l'Association française pour l'avancement des sciences, le Canada n'en a jamais eu. 1923, on a l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences qui a permis de réunir tous les scientifiques ensemble, les jeunes qui font des conférences à chaque année. Donc, pendant 10 ans, ils ont fait des conférences en 1923 et 1933, ils ont lancé des conférenciers dans tous les collèges classiques pour dire « faites des sciences, allez en chimie, allez en physique, allez en mathématiques, allez en botanique ». Et en 1933, Jacques Rousseau a dit « OK, ça fait 10 ans, il commence à avoir suffisamment d'étudiants de deuxième cycle, suffisamment de recherches universitaires, on fait le premier congrès de l'ACFAS, qui a été un grand succès et qui a été de façon continue jusqu'à nos jours. On va fêter d'ailleurs en 2023 le 100e anniversaire de l'ACFAS. Donc on voit, Marie-Victorin, c'est quelqu'un d'intellectuellement énorme. C'est pas simplement un botaniste qui a créé le jardin botanique de Montréal en 1929. C'est un propagateur d'idées originales, nationalistes, au bon sens du terme, par le développement scientifique en regardant vers le futur. Ça a toujours été sa vision. On sait que Lionel Groulx disait Notre maître, le passé. Hein, c'est un livre de Lionel Groulx. Marie-Victorin répondait, comme le disait Léonard de Vinci, il faut se méfier du passé. Une phrase comme celle-là est une réponse à l'idée qu'on regarde vers le passé et dit non, il faut regarder vers le futur. Donc, il y a plein de textes. Et d'ailleurs, j'ai fait paraître, et je termine ma première intervention sur ça, en 1996, j'avais réuni justement tous ces textes de combat qui sont méconnus au Québec de Marie-Victorin. J'avais intitulé ça « Science, culture et nation ». Et ces textes-là, qui sont épuisés depuis quelques années, vont reparaître en septembre, toujours aux éditions du Boréal, en même temps d'ailleurs que les lettres de Marcel Gauvreau au frère Marie-Victorin. On pourra d'ailleurs plus tard citer certains extraits de ce texte-là qui sont surprenants par leur rigueur et par leur puissance intellectuelle.
Absolument. Puis, si on s'intéresse justement à cette correspondance-là, en fait, que vous avez publiée, qu'est-ce que tout ça apporte peut-être à l'historiographie, non seulement l'historiographie des sciences, de la sexualité, de Marie-Victorin aussi, et pourquoi, en fait, avoir choisi de les publier?
C'est que la correspondance qui était méconnue avant les années 1990, que Marie-Victorin a entretenue avec sa secrétaire, qui est Marcel Gauvreau, c'est une correspondance au plan intellectuel et au plan mondial. C'est une correspondance unique par son intérêt sur la sexualité humaine dans les années 30. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, l'ignorance sexuelle était quelque chose de généralisé partout dans le monde. Par exemple, vous avez peut-être vu le film qui porte sur les rapports Kingsey, qui s'appelle Dr. Kingsey, Parlons de sexe, qui est paru le 7-8. Qu'est-ce que le rapport Kingsey? C'est un rapport d'un chercheur universitaire américain qui a été publié en 1948 puis en 1951. Donc, bien après la mort de Marie Victorin, et qui a fait scandale parce que ça expliquait la sexualité des hommes et des femmes. Le volume 1 portait sur les femmes, deuxième sur les hommes ou l'inverse, je ne me souviens plus, mais ça avait fait scandale. Fait qu'on imagine que le discours de Marie Victorin, c'est de dire « Moi, je m'intéresse à tout ce qui est humain. » Puis la sexualité fait partie de la vie. Donc, sa vision, comme frère des écoles chrétiennes, c'est une vision très moderne de dire « Dieu nous a créés avec notre corps. » Et donc, la sexualité fait partie du corps humain. Et il dit « Comme vous êtes mon ami, Marcel Gauvreau, que vous avez confiance en moi, moi, j'ai une confiance en vous, on peut avoir entre nous, de façon totalement confidentielle, parce que personne ne pourrait comprendre qu'on parle de ces choses-là en 1934, entre 1934 et 1944. Donc, c'est 10 années de correspondance que lui appelle, dans une forme de code, leur lettre biologique. Ou il dit aussi leur longue lettre. Par exemple, dans une lettre, il va dire, ah oui, à propos, je vous prépare une longue lettre. Ça veut dire, j'en prépare une sur la sexualité humaine. Il lui fait lire des livres, il lui demande ses réactions. Donc, c'est vraiment une réflexion scientifique sur la physiologie et la psychologie de la sexualité à une époque où personne ne pouvait en parler, sauf les curés, qui n'y connaissaient rien, et les médecins, parce qu'évidemment, c'est eux qui connaissaient le corps humain, mais qui étaient une vision moraliste de la sexualité chez les médecins. Donc, lui sortait de cette question-là. Et il avait une vision très, très originale à l'époque. La vision de Marie-Victorin de la sexualité, c'est assez curieux, c'est une vision biologique. Pour lui, dans les lettres, il dit, au fond, on est un paquet d'hormones et on réagit à nos hormones. Donc, il n'y a pas de diable. Il dit même en blague, parce qu'il y a un très bon sens de l'humour, Marie-Victorin, il dit, voyez, je vous montre dans un livre la courbe de l'excitation humaine. Alors, si c'est dans un livre qui est paru aux États-Unis en 1937 sur la sexualité humaine, il dit, regardez, la courbe de l'excitation en fonction des journées du cycle menstruel montre que l'excitation sexuelle est maximale un peu avant l'ovulation et un peu après. Parce que biologiquement, il faut se reproduire pendant l'ovulation et non pas avant, il est trop tard, ou après, il est trop tard aussi. Okay? Et il dit, voyez-vous, le diable n'a rien à voir là-dedans. C'est une ironie parce qu'à l'époque, les femmes ignoraient, puis ceux qui n'étaient pas mariés et qui avaient des appétits sexuels se disaient, j'ai des mauvaises pensées. Donc, il dit, ben non, c'est biologique, c'est hormonal. Donc, il y a une vision très moderne et il lui a appris à observer son propre corps. Et dans ses lettres à elle, qui vont apparaître en septembre, elle explique les observations qu'elle fait sur elle-même, par exemple, de son cycle menstruel. Est-ce qu'il est très précis? Est-ce qu'elle devient de mauvaise humeur? Quel est son comportement? Donc, elle a dit, ah, ben effectivement, je m'observe mieux. Elle a appris à être réflexive. Mm-hmm. Parce que souvent, on vit sans se regarder, puis sans se voir faire, sans s'observer.
Il y a beaucoup de descriptions là, dans tout ce qui se passe.
Très détaillé. Oui, c'est ça. Effectivement. Et il y a un bout qui est très dur quand il dit, au fond, l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. C'est bon pour leur énergie. Il dit, d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que les femmes cloîtrées dans les couvents, c'est une mauvaise chose. Et il dit même, c'est ce qui les rend folles. Parce qu'il dit, la folie et les maladies mentales qui se développent sont dues au fait qu'elles ne sont pas en contact avec le sexe opposé. Vous imaginez cette vision-là? C'est impensable d'avoir cette vision à l'époque. Mais c'est une vision biologique. Nous avons besoin des femmes pour être épanouies. Les femmes ont besoin de nous. Elle qui est célibataire, il dit même vous, quand vous êtes au jardin botanique, entouré d'hommes, je le vois, vous vous sentez mieux, vous êtes joyeuse, vous êtes de bonne humeur, c'est bon pour vous. Puis il dit, pour moi, j'ai été transformé par la présence des femmes. Avant, j'étais prof de l'école primaire dans une école de garçons. Maintenant, je suis entouré de femmes et je le sens, mon énergie est plus grande. Voyez-vous, c'est toutes ces réflexions-là qui sont assez surprenantes pour l'époque. Et il lui dit même dans une lettre, si on écrit ces choses, c'est parce qu'on ne peut pas en parler dans la société telle qu'elle est faite actuellement. Donc, ça reste secret. Puis vous imaginez que Marie-Victorin doit avoir une confiance absolue en elle. Parce qu'elle, bon, elle n'est pas très connue à l'époque, mais lui est très connu. Donc, si elle avait fait connaître ces lettres-là, vous imaginez, Marie-Victorin était envoyée en Sibérie, ça n'aurait pas été long.
Mais justement, puisqu'elle entretient sa correspondance avec Marcel Govreau, j'imagine que vous pouvez nous dire un peu qui elle est et le contexte de leur rencontre entre Marie-Victorin et Marcel Govreau.
Oui, ça, c'est intéressant parce que Marcel Govreau est né en 1907 et elle a aussi des problèmes de santé. Elle a eu la tuberculose, la polio, donc elle a une jambe un peu plus courte que l'autre, mais c'est une femme qui reste quand même avec beaucoup d'énergie, bien que sa santé soit très fragile. Elle a été 3 ans au repos, etc. Et en 1930, tout tourne parce que le père de Marcel Govreau, qui est le docteur Joseph Govreau, qui est une grande figure du nationalisme canadien-français de l'époque. D'ailleurs, sa maison, qui est à Rimouski, est un monument national. C'est une très belle maison bourgeoise. Mais lui déménage à Montréal pour occuper un emploi comme secrétaire de l'Ordre des médecins. Et en 1930, Marie-Victorin lance le concours de botanique avec Le Devoir. Et son père lui dit, « Ah, ben quand ça va t'occuper un peu, tu devrais soumettre un herbier. » Mais elle, finalement, on est en 1930, donc en 1907, donc elle a 23 ans, donc elle est trop vieille pour être dans les concours, mais on lui donne un prix pour son travail, un prix hors concours, parce que c'est pour les jeunes de 13 à 15 ans, en gros, de 10 à 15 ans, avec elle, elle a 23 ans, on donne un prix. Et elle a une bourse. Et donc, elle découvre une passion pour la botanique, et donc transfère de la faculté de philosophie à la faculté de botanique, et donc commence à suivre des cours de botanique, à faire une licence, avec les cours de Marie-Victorin et tous les cours aussi d'autres profs que Marie-Victorin. Mais elle s'éprend assez rapidement de Marie-Victorin et Marie-Victorin voit en elle aussi une personne qui l'intéresse. Et quand Marie-Victorin s'en va en Europe en 1934, elle lui écrit et là, il débute une correspondance et Marie-Victorin lui dit, parce que lui, il est parti en Belgique pour justement la réunion des frères des écoles chrétiennes, et il lui dit, si vous voulez vous confier à moi, parce qu'aussi, il faut comprendre, comme c'est un frère, il est habitué d'être le tuteur. Hein, c'est quelqu'un qui est là pour conseiller, être le guide spirituel, ce qui est accepté parce que c'est un frère des écoles chrétiennes. Donc, il dit, je peux être votre guide et vous guider. Et elle veut devenir religieuse, mais sa santé ne le permet pas, elle sent un peu mal. Et là, lui a fait le déclic. Il dit, écoutez, vous n'êtes pas obligé de devenir religieuse. Vous pouvez faire un apostolat laïque. Occupez-vous des jeunes. Vous aurez des centaines d'enfants. Parce qu'il sait qu'elle est non mariée, que probablement elle ne se mariera pas. Sa santé est fragile. Donc, il dit, faites-vous-en pas. Vous pouvez faire une très, très belle vie. Et là, il commence, au fond, à dire, je sais ce que vous devriez faire. Et dans une des premières lettres, il lui décrit le programme qu'il imagine pour elle. Parce que Marie-Victorin, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'on doit faire et il peut vous dire, OK, toi, fais ça, ça va être bon pour toi. Et là, tu dis, oh, c'est génial, OK, je vais le faire. Elle est guidée depuis le début par Marie-Victorin. Tu vas faire ta maîtrise, tu vas faire ton doctorat. Bon, finalement, elle a fait sa maîtrise en 39, mais elle n'a pas fait son doctorat parce que Marie-Victorin est mort en 44. On devine, à la mort de Marie-Victorin, parce que Govreau est dévasté, parce que son amour vient de disparaître, et elle écrit à sa sœur, Mère Marie des Anges, qui est une sœur aussi à Québec, à Sillery, elle lui dit, on sent qu'on n'est plus rien depuis qu'il est absent. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Bon, finalement, elle s'est remise de sa dépression, elle va continuer à travailler, elle va éditer des livres de botanique pour les enfants, hein, les plantes curieuses de mon pays, dont d'ailleurs le premier tome en 1943 est préfacé par Marie-Victorin. Il lui dit, ton idée de l'école de l'éveil, c'est génial. D'ailleurs, je lui donne son nom, l'école de l'éveil pour éveiller les jeunes. Et je lui donne même sa devise. Pourquoi toutes ces choses sont si belles? C'est Marie-Victorin qui donne la devise. Donc, on voit qu'elle est entourée de Marie-Victorin qui travaille avec elle. C'est à la fois son amoureuse, sa confidente, il dit souvent sa mère. Donc, c'est une relation très complexe, la relation entre les deux. Et il lui dit, notre amour est un amour qui dépasse l'amour physique, parce que nos circonstances ne peuvent pas nous donner un amour physique. Donc, c'est un amour mystique. Et il lui dit, il faut sublimer cet amour dans la science. Donc, au lieu d'être un amour physique, le travail va sublimer au sens freudien. Lui a lu Freud aussi, elle aussi a lu Freud. Au sens freudien, on peut sublimer cet amour-là par le travail. Donc, c'est une relation très complexe et il faut lire les lettres parce qu'en même temps, c'est des lettres d'une très bien écrite, parce qu'on oublie que Marie-Victorin est aussi un écrivain. Hein, il a fait paraître en 1919 et 1920 deux livres de littérature qui avaient été très bien reçus par la critique, qui s'appellent « Les croquis laurentiens » et « Les récits laurentiens », qui sont la description de la vie en campagne, la description du Mont Bel-Oeil. C'est un œil d'ethnographe. C'est quelqu'un qui observe le monde alentour, pas uniquement les plantes, mais les humains aussi.
Oui, puis on le voit grandement dans ces échanges. Bien, avant de poursuivre tout ça, on va prendre une petite pause musicale. Et donc, on va y aller avec une première chanson d'Alexandre Béliard. En fait, c'est un auteur, compositeur, interprète qui a mis en place un projet depuis 2018 appelé « Légende d'un peuple » qui vise à faire connaître l'histoire de l'Amérique francophone en chanson. Et il a composé une chanson en l'honneur de Marie-Victorin, justement, qui s'appelle « Le botaniste ». Bonne écoute.
Des trembles et des érables, un merisier géant, des ormes, du pain blanc. Il faut mettre la table, l'impatiente du cap, ou le tabac du diable, la camomille des chiens, la crapaudine ou rien. Sanguinaires, quelques fleurs mocassins, des joncs et du plantain, le doux persil de mer, l'ancolie, l'anémone, le tabouret des champs, la julienne des dames, la menthe, le trèfle blanc. Chacun fait son jardin, je persiste et je signe, frère Marie-Victorin, frère Marie-Victorin. Nommez les fleurs d'ici, chantez le vrai pays, poète à vos papiers, la flore est à vos pieds. Chacun fait son jardin, je persiste et je signe, frère Marie-Victorin, frère Marie-Victorin. Chacun fait son jardin, je persiste et je signe, frère Marie-Victorin, frère Marie-Victorin.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 13h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3.
Du 1er au 4 août, au Parc de l'Esplanade, l'histoire se joue au fait de la Nouvelle-France T&D. Venez bavasser avec des personnages de l'histoire, boire un petit rhum à l'auberge Chic-Choc, taquiner la chance à la maison de jeu, regarder le défilé, puis vous instruire sur nos origines. Manquez pas Vilain Pingouin sur la scène TD le 3 août. Puis tout ce que ça prend, ben c'est un petit médaillon dans le cou. En vente à seulement 12 pièces dans les succursales TD puis Brunet participantes, puis au nouvellefrance.qc.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Saint-Anne, aie pitié de nous. Le Cap Tourmente approche et nous risquons de nous échouer.
Chut! J'écoute 3600 secondes d'histoire. Priez plus tard.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur le frère Marie-Victorin et ses fameuses, sa fameuse correspondance qui est restée secrète pendant bien longtemps avec Marcel Gauvreau. Nous avons avec nous M. Yves Gingras, qui a justement publié en 2018 ses lettres biologiques aux éditions Boréal. Donc, avant la pause, on s'est intéressé à Marie-Victorin, sa carrière, aussi à toute la question de la relation avec Marcel Gauvreau, justement, toute la réflexion qu'il y a derrière leurs échanges. Puis on a aussi un peu abordé les critiques peut-être que Marie-Victorin a portées envers l'Église et comment il conçoit la sexualité versus peut-être comment l'Église la conçoit. Et donc, quelles critiques peuvent se retrouver dans les lettres? Disons, si on pense, bon, il y avait la non-mixité que vous avez abordée un peu, mais si on pense aussi à l'éducation sexuelle des jeunes?
Oui. Lui, il avait d'ailleurs découvert, lorsqu'il était prof au Collège de Longueuil, comme je dis, un côté ethnographique chez Marie-Victorin, il interrogeait les jeunes pour savoir quels mots ils utilisaient pour parler du pénis, parler du vagin, etc. Puis il dit, c'est incroyable comment ces jeunes-là n'ont aucune éducation sexuelle, ils ne connaissent pas du tout leur corps, de sorte que quand ils vont arriver à l'âge adulte et qu'ils vont se marier, au fond, ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver quand ils vont arriver dans le lit. Mm-hmm. Fait qu'il écrivait dans son journal, j'ai des approches de l'éducation qui sont peut-être pas acceptées par mes supérieurs. J'ai des audaces que mes supérieurs n'accepteraient peut-être pas. Donc, il est très conscient de ça. Quand il va au niveau universitaire, au fond, avec Marcel Gauvreau, il dit, vous pouvez m'apprendre beaucoup plus sur la femme. Il dit, moi, je lis des livres, mais c'est pas dans les livres qu'il faut apprendre. C'est dans la vérité. Et d'ailleurs, il lui écrit une lettre parce que leur relation étant sur cette question de la sexualité, très, très original, il en est très conscient. Et il lui écrit, vers 1937, il dit, « Soyons, chère fille, la preuve vivante que l'on peut tout voir, tout savoir de l'humaine nature, sans que cette connaissance soit une souillure, sans que ce contact avec les choses dites honteuses nous rabaisse en rien. Au cours de nos conversations biologiques, que nous avons toutes les raisons de continuer, je me suis parfois arrêté sur le bord d'un mot, d'une phrase, d'un bout de description, craignant de déflorer votre pensée, de dresser une image obsédante et malsaine. » Donc, il dit, si vous êtes mal à l'aise avec notre relation, elle a dit, aucun problème, c'est si je n'étais pas d'accord, je vous le dirais. Donc, elle l'embarque complètement dans son plan et elle est très heureuse d'avoir cette conversation-là. Et d'ailleurs, elle dit, moi, comme je ne suis pas mariée, je ne peux pas savoir qu'est-ce que ça donne une relation sexuelle, mais j'ai des amis mariés. Et donc, elle interviewe une de ses amies qui lui parle de sa première relation sexuelle avec son mari, la surprise qu'elle découvre un pénis qu'elle n'a jamais vu, au fond, finalement. Mm-hmm. Elle-même, dans certaines de ses lettres, Marcel a dit qu'elle avait une des secrétaires de Marie-Victorin qui tapait son journal de visite à Cuba, ou son journal en Afrique, voyage à travers trois continents. Et quand elle a vu le mot pénis, et elle a tapé le mot pénis, elle a demandé à Marcel Gauvreau, elle a dit, c'est quoi ça, pénis? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est absolument abasourdie. Elle écrit à Marie-Victorin, elle disait, c'est incroyable le niveau d'ignorance dans lequel les jeunes, surtout les jeunes dans les couvents, à l'époque, sont gardés. Donc lui, il disait, non seulement c'est absurde, mais le mariage des prêtres va arriver un jour. Il va plus loin, il voit que des hormones, on est en 1937-39, des hormones synthétiques vont arriver, et là, il fait une petite blague, il dit, les théologiens devront s'adapter. On va dire, parce que vous savez qu'encore, d'ailleurs, le pape est contre la contraception artificielle. Marie-Victorin est pour. Il dit, d'ailleurs, grâce à la contraception, ça donne un peu de répit aux femmes. Donc, il est très conscient que les femmes n'ont pas de répit. Ils ont un enfant, pape. à chaque année. Donc, il y a des familles de 12 et 15. Lui, il ne trouve pas ça que c'est une très bonne idée. Donc, il dit finalement, la science, grâce aux hormones synthétiques, c'est bien avant la pilule. La pilule, c'est en 68. Voyez-vous, mais il est conscient parce qu'il connaît la biologie, il connaît la biochimie. Il sait que des hormones synthétiques vont arriver. Donc, il suit le développement de la science et aussi de la biologie, humaine.
Puis bien qu'ils sortent quand même assez beaucoup des conventions de l'époque, surtout prescrites par l'Église, le frère Marie-Victorin manifeste quelques réticences à l'égard de certains aspects de la sexualité. Par exemple, la sexualité en dehors de l'enfantement ou encore de l'homosexualité.
Oui, on voit que dans ça, il y a une place parce que quand Marcel Gauvreau lui parle de son ami qui est très porté sur le sexe, là, Marie-Victorin dit « Ouais, mais là, il y a quand même des limites. » Il dit « C'est beau faire l'amour constamment, mais s'il n'y a pas d'enfant au bout de ça, ça peut devenir déviant un peu. » Donc, c'est sûr, c'est quelqu'un d'avant-garde, mais il n'est pas encore en 2018. Okay? Mm-hmm. Et d'ailleurs, ce qui est chose très intéressante, c'est que sur le mot « sexualité », il dit qu'il ne comprend pas ça. Ça le dépasse. Mais il désavoue pas ça. Il dit très bien qu'il y a un de ses amis qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés. J'essaie de l'encourager, mais il dit, je comprends pas comment ça peut arriver. Et moi, je pense qu'au fond, Marie-Victorin, comme il y a une conception complètement biologique des relations entre les hommes et les femmes, il peut pas comprendre cette affaire-là. Pour lui, c'est clairement pas naturel. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas comme c'est un frère qui est généreux, il ne dénonce pas ça. Il dit, ah, je trouve ça difficile, j'essaie de l'encourager, de l'aider. Il y a des moments difficiles parce qu'il y a des attractions vers les garçons. Voyez-vous? Mais il dit, je comprends pas ça. Donc, il en parle un peu, pas beaucoup, c'est la seule chose qu'on sait. Et il n'y a aucune surprise qu'il n'ait pas compris, parce que même si on fait l'histoire de l'homosexualité, hein, ça, on peut aller encore dans les années 60, et même de nos jours, hein, on parle de gens qui font encore la promotion de thérapie de comportement. Ouais. Ça veut dire qu'on veut. On pense que biologiquement, on peut vous changer par des thérapies psychologiques. Donc, que les années 30, il y a cette limite-là, c'est pas surprenant, mais il dénonce pas l'affaire. Il trouve ça triste.
Mm-hmm. Puis justement, il y a beaucoup d'échanges sur des cas, justement, entre Marie-Victorin et Marcel Gauvreau. Mais ça fait partie, justement, des types de sujets qu'il traite. Mais en général, justement, quels sujets sont traités peut-être plus spécifiquement par les deux?
Le bout le plus surprenant, c'est lorsque Marie-Victorin, à partir de 39, lui décrit qu'il y a eu une circonstance à Cuba où il a pu rencontrer des prostituées. Il faut rappeler qu'à Cuba, la prostitution est légale. Donc, c'est contrôlé, c'est légal, donc il peut le faire sans contrevenir aux lois. Et donc, lui dit, OK, je suis allé voir une prostituée, donc je l'appelle, et je suis devenu ami avec elle. Elle m'appelle le professeur, parce que lui, il dit, au fond, ce que je veux faire avec vous, c'est de l'expérimentation. Donc, elle a dit, OK, je comprends, de toute façon, vous me payez, puis il lui parle, il s'intéresse à elle, il devient son ami, c'est Lydia, et il parle de Lydia à Marcel Gauvreau. Et Marcel Gauvreau lui dit, elle dit, c'est incroyable la confiance que vous me faites et je comprends parfaitement ce que vous avez fait. J'aurais été dans cette situation-là, j'aurais fait de même. Parce que les deux se disent, rien de ce qui est humain n'est interdit à la connaissance scientifique. Ça, c'est la fameuse phrase de Marie-Victorin. Donc, il lui décrit en détail, sur 15-20 pages, que lorsqu'il titille le clitoris, il voit le comportement des muscles qui se rétractent. Donc, il décrit de façon scientifique un orgasme. Okay? Et là, il demande ensuite à elle, il dit, toi, est-ce que ça te dit quelque chose? Donc, expérimente. Donc, Marcel Gauvreau commence à expérimenter sur elle-même un orgasme et elle dit, oui, je comprends exactement c'est quoi, j'ai vécu ce genre de choses-là, etc. Donc, c'est vraiment la description à la fois de la physiologie de la sexualité, mais aussi de la psychologie de la sexualité. Ça, c'est très important. Et c'est fait de façon très ethnographique, très rigoureuse. C'est surprenant à l'époque. Bien sûr, il y a toujours des mauvaises langues, et ça, je tiens à le dire, que je trouve que c'est des gens un peu simplistes, qui vont dire, oh, come on, c'est du voyeurisme. À ça, la réponse est simple. Si on pense que tout ce travail de réflexion scientifique et d'échange rigoureux auquel Marcel participe elle-même, c'est du voyeurisme, il faut dire que tous les gynécologues sont des voyeurs. Hein, si on dit, ah, tu veux devenir un gynécologue, c'est pour voir des vagins de femmes. Non, c'est d'un simplisme. Marie-Victorin, c'est quelqu'un de curieux, qui s'intéresse à tout, Marcel Gauvreau aussi, puis il lui dit, vous répondez à mes questions, si vous en avez sur l'humain, sur le corps humain masculin, je vais répondre en toute franchise. Elle lui pose des questions simples. Quelle est la longueur d'un pénis en érection? Est-ce que c'est vrai que le sperme, tu sais, part 3 mètres dans les airs, ce qu'on voit dans les films d'ados? Tu sais, c'est des stupidités habituelles, mais c'est l'imaginaire qu'on a habituel. Et donc, il lui envoie un livre qui montre c'est quoi la longueur d'un pénis en moyenne en érection. C'est une description vraiment scientifique. Mm-hmm.
Puis, selon vous, en fait, qu'est-ce que ces discussions-là apportent à Marie-Victorin? Peut-être, ben, tu sais, non seulement dans sa pensée scientifique, mais aussi justement sa personnelle.
Ben, au fond, le paradoxe de cette correspondance-là, c'est que Marie-Victorin, qui est un boulimique de savoir, écrit des tonnes de textes sur ça, mais c'est très bien que contrairement à Kingsley, il ne pourra pas en faire un document public. C'est un frère de l'École chrétienne. D'ailleurs, il y a un peu d'humour. Il y a une très belle lettre de Marie-Victorin où il dit en blague, vers 1937, il dit, ah, ma chère Marcel, avec tout ce que vous avez appris, vous pourriez écrire un beau traité du clitoris. Hein? Très beau sens de l'humour typique de Marie-Victorin. Et elle, dans ses lettres, une place, elle parle du dieu pénis qui lui a fait découvrir. Le dieu pénis. Donc, c'est assez intéressant. Mais il faut comprendre que dans cette relation-là, Marcel Gauvreau est en amour total avec le frère Marie-Victorin. Hein? Et elle lui dit, au fond, hein? Elle dit, par exemple, dès 1936, elle dit, « Quoi de mal est-ce que j'ai en plus des sentiments très naturels? La fin de semaine me paraît étrange sans vous. J'ai toujours bien hâte de vous revoir le lundi matin, de vous dire « Bonjour, mon frère », au début de la matinée et de l'après-midi. » Je suis heureuse même quand je ne vous vois pas, pourvu que vous soyez à votre bureau et que de temps en temps je vous entende ouvrir et fermer vos tiroirs. Et je suis plus heureuse encore quand je vous retrouve, car parfois, lorsque je vous regarde, je vois le ciel dans vos yeux. C'est une lettre d'amour extraordinaire.
Ça vient des correspondances de Marcel Gauvreau.
Oui, de Marcel Gauvreau, parce qu'il faut dire que Marcel Gauvreau étant le secrétaire de Marie-Victorin, elle est dans le jardin botanique, elle est dans ses bureaux... Avant le jardin, bien, elle est à l'Université de Montréal sur la rue Saint-Denis, là où maintenant c'est l'UQAM. Et donc, son bureau est au sous-sol. Donc, elle sait que Marie-Victorin est au-dessus parce qu'elle entend marcher, comme elle dit, elle entend ses tiroirs ouvrir. Quand elle va dîner, il se rend compte à la salle de dîner avec tous les autres employés du jardin. Donc, et comme elle est non mariée, elle lui dit aussi qu'elle ne se mariera pas parce qu'elle ne lâchera jamais Marie-Victorin. Elle dit, au fond, vous comblez ma vie et je vais toujours être avec vous complètement et qu'elle va vraiment rester avec lui et qu'elle dit en blague, n'ayez crainte, je ne me marierai pas parce qu'elle est bien consciente que Marie-Victorin exprime moins un peu ses sentiments, mais il en laisse assez passer pour qu'elle voit que Marie-Victorin l'aime énormément aussi, énormément. Et plus le temps passe, plus on lit les lettres vers 39 et 40, plus l'expression de son amour est explicite. Quand il dit « Je m'endors avec votre tête sur mon cœur, il y aura un jour où on sera ensemble au ciel et que personne n'osera critiquer qu'un homme comme moi et une femme comme vous soient ensemble, parce qu'on sera au ciel dans un petit coin tranquille. » Donc là, il lui dit qu'il est en amour avec elle, évidemment.
À vous entendre, on comprend que Marie-Victorin et Marcel Gauvreau se voyaient fréquemment. Mais qu'est-ce qui a amené cette correspondance si fréquente entre ces deux-là et surtout au niveau de la sexualité? Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'histoire de la sexualité, une correspondance comme ça, alors qu'ils se voyaient quand même à tous les jours?
C'est que justement, ce qui est très intéressant, c'est que alors qu'ils se parlent bien sûr aussi, je pense que Marie-Victorin s'est dit, là, on fait un travail scientifique, c'est un travail de réflexion, et bien que si on se voit le midi, je peux vous dire, OK, je vous prépare une longue lettre. Elle comprend que d'ici une semaine ou deux, il va avoir, parce qu'il y a des lettres d'actylographie de 15 pages. Donc, il faut que lui, qui regarde des traités, il compulse des textes, il cite des textes sur le mariage, des textes américains. Donc, il les lit. Il faut qu'il tape ça. C'est toute une réflexion. Elle, c'est pareil. Donc, il y a deux types de correspondance. Il y a la correspondance habituelle, un peu administrative. Quand elle lui dit en voyage, OK, là, au jardin, Jacques Rousseau est à Québec, Pierre Dansereau est allé ramasser des plantes à tel endroit. Donc, elle l'informe sur ce qui se passe au jardin. Mais en parallèle à ça, il y a la correspondance secrète, qui est la réflexion à long terme sur la sexualité. Et ça, donc, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend le degré d'ignorance des hommes et des femmes, même des femmes mariées. Et surtout, ce qui va être assez difficile à lire, je vous l'annonce, dans les lettres de Marcel Gauvreau, c'est qu'elle décrit en détail que les petites filles dans les couvents qui ont 13 ou 15 ans et qui ont leur première menstruation, ils sont surprises. Là, parce que, comme elles disent, le sang qui coule de ces parties-là, on pense avoir une maladie qui n'est pas très bien. Là. Mm-hmm. Donc, elle dit... Et que comme les sœurs les ont avertis que d'ici un an ou deux, tu vas avoir tes menstruations, c'est les jeunes filles plus vieilles qui disent « OK, je comprends ce qui t'arrive, viens, je vais t'expliquer. » Parce que les sœurs les gardaient dans l'ignorance. Et d'ailleurs, dans cette lettre-là, Marcel Gauvreau a dit « Ô ignorance, que de problèmes qu'on fait en ton nom. » Elle est scandalisée de cette affaire-là. Parce qu'elle dit « Moi, je suis un peu moins ignorante que les autres. » Mais même moi, j'en connaissais pas tant que ça. J'en connaissais plus parce que mon père est médecin et nous a un peu plus tenu au courant de l'évolution de notre sexualité à l'adolescence. Mais au fond, j'en savais pas tant que ça.
Effectivement. C'est fascinant. Et justement, pour les auditeurs auditrices qui souhaiteront se procurer le livre le côté de la correspondance de Marcel Gauvreau, quand elle va sortir?
Ça va paraître le 10 septembre. Donc, c'est Marcel Gauvreau. Le titre, c'est « Lettre au frère Marie-Victorin, correspondance sur la sexualité humaine ». Aux éditions du Boréal, qui va faire paraître en même temps une réimpression de Sciences, Culture et Nation, qui sont tous les textes de combat que Marie-Victorin a écrit dans Le Devoir entre 1916 et 1944.
Donc, un autre côté de Marie-Victorin, justement.
Méconnu, oui. Le côté d'intellectuel de combat que je vous invite à lire parce que c'est des textes puissants et encore actuels.
Bien, beaucoup de lectures en septembre qui s'annoncent. Donc, c'est ça, c'était déjà tout pour l'émission de ce soir. Merci encore à M. Gingras d'avoir été les nôtres.
Ça m'a fait plaisir.
Et justement, bon, je vous rappelle, si vous voulez vous procurer le livre des correspondances de Marie-Victorin, ils sont publiés aux éditions du Boréal, « Lettres biologiques, recherche sur la sexualité humaine ». Et donc, c'est ça, la correspondance de Marcel Gauvreau. J'en profite également pour ressouligner notre collaboration avec les Fêtes de la Nouvelle-France. Donc, si vous voulez participer au concours pour courir la chance de gagner un médaillon pour les Fêtes, l'émission de la semaine prochaine, nos invités vont être Michel Thévenin et Marie-Hélène Fallu et l'émission va porter sur la mode capillaire masculine au 18e siècle. Donc, si vous souhaitez gagner un médaillon, vous pouvez aller sur notre page Facebook et participer au concours. Et finalement, en fait, pour nous quitter, peut-être sur l'amour de Marcel Gauvreau et Marie-Victorin. Écoutons une chanson de Bing Crosby, I'll Be Seeing You, qui était numéro 1 aux États-Unis en 1944. Rappelons-le, qui est le 75e anniversaire de décès de le frère Marie-Victorin. Donc, au plaisir et passez une très belle soirée.
I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely scene.
summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. In the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I'll be seeing you in all the old familiar places.
We might get it, Sam. I won't bet on it. Oh, what a... Got the other thing in my ear and I can't get it out.
Whisper, I love you. Birds singing.